rêvé d'avoir une petite sœur ou un petit frère. Comme ça, elle grandit et on peut jouer nous deux.
Moi, je préférerais avoir plus de petites sœurs.
Un grand frère. Bah, plutôt un frère de mon âge, quoi. Plus pour jouer à des jeux de mon âge.
Oui, me déteste.
Premièrement, je sais pas comment elle fait, elle m'énerve partout. Et deuxièmement, bah, quand elle m'énerve, je m'énerve et je l'attaque et elle pleure. Ça m'énerve.
Quand j'en ai marre de mes sœurs, je dessine.
Depuis ses 6 ans, déjà, elle ne débarrasse pas la table comme nous, on le fait. Elle trouve toujours une excuse.
Par contre, on fait beaucoup de bagarres en ce moment.
Mais aussi, ça peut être un peu énervant, bien, surtout d'être au milieu, quoi.
Moi, elle est gentille avec moi que quand je lui fais quelque chose de gentil.
Vous voyez, les sœurs, on les choisit pas. Mais les amis, on les choisit.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. 22, voilà une nouvelle année. Je vous la souhaite épatante, joyeuse et douce. Et je formule des vœux aux allures de résolution. Je nous souhaite, à nous les parents, de nous débarrasser d'une couche de culpabilité. Oui, on a souvent plusieurs couches superposées. Soyons bienveillants avec nous-mêmes. Par exemple, sur le sujet des conflits entre nos enfants. Faut-il intervenir ou pas dans les disputes? Comment se positionner en cas de jalousie ou de rivalité? Comment se dépêtrer avec la place de chacun, chacune dans la fratrie? C'est compliqué. On a toujours l'impression de ne pas s'y prendre correctement. Ne pas culpabiliser donc, mais en parler. C'est ce que nous allons faire avec mes invités. Parler des aînés, des cadets et cadettes, des benjamins et benjamines. Est-on vraiment toujours plus exigeant, nous parents, avec l'aîné? Le petit dernier est-il vraiment le chouchou? L'enfant du milieu mérite-t-il plus d'attention? Et quelle influence, surtout, leur place dans la fratrie a-t-elle sur leur personnalité? Très vaste sujet qui convoque la capacité de chacun à partager. Quelque chose me dit qu'une année de réflexion n'y suffira pas. On en causera encore en 2023. Fratrie, comment aider chaque enfant à trouver sa place?
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Et 3 invités sont avec moi en studio. La littérature jeunesse propose une offre vaste sur ce sujet des fratries. Nous avons choisi un auteur et une autrice. Jean-Philippe Arouvignaud, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes éditeur et écrivain. Et c'est à vous que l'on doit Les gens quelque chose, qui sont devenus cultes. Une famille aux petits oignons, c'est le titre de cette saga publiée chez Gallimard Jeunesse. L'intégrale est disponible en 2 tomes. C'est l'histoire d'une famille de 6 enfants, 6 garçons. Pour ne pas se compliquer la vie, les parents les ont appelés Jean A, Jean B, Jean C, etc. L'histoire est en partie autobiographique, on va y venir, vous vous appelez Jean-Philippe. Ce sont des livres très drôles, truffés de bêtises inventives, à lire à partir de 9 ans, c'est ça?
Oui, à partir de 8 ans, oui.
8 ans même, chacun des gens quelque chose tente d'exister dans cette agitation générale qu'est la famille. Est-ce que vous reconnaissez en partie dans les propos d'enfants qu'on a entendus en introduction?
Oui, complètement, à la fois ce mélange d'envie d'avoir avec soi des compagnons ou des compagnes de jeu, et puis en même temps, on n'y jamais veut débarrasser. Il y a et rivalité et complicité, c'est ça qui est merveilleux, et compliqué dans une fratrie.
Bonjour Martina Aranda.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes autrice et illustratrice pour la jeunesse aussi, pour les plus petits. Je vous ai invité en particulier parce que vous avez écrit et illustré ceci, Le jour où je suis devenue grande sœur à l'école des loisirs. Oui. Magnifique album, tout plein de douceur. On retrouve les deux mêmes personnages que dans un autre livre, Le jour où je suis allée à la grande école. Ils s'appellent Léonore et Max. C'est une grande sœur et un petit frère. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'on doit se débarrasser d'une couche de culpabilité, nous, parents, sur ce sujet de la fratrie?
Oui, oui. Comme vous avez dit, au début, on met beaucoup de pression sur l'aîné. Et du coup, maintenant, je regrette quelque part que le titre du livre, c'est « Le jour où je suis devenue grande sœur ».
Oui.
Parce que récemment, je viens de lire un livre d'un psychologue espagnol qui s'appelle Tania García, qui écrit sur le sujet des frères et sœurs, qui se base sur le respect. Et justement, elle dit qu'avec cette dénomination de grand sœur, on met déjà beaucoup de pression sur l'aîné et qu'il faut appeler les enfants, mon premier enfant, mon deuxième enfant, parce qu'ils sont nés comme ça, un après l'autre.
Donc le jour où je suis devenue sœur, c'était pas mal.
Mais en tout cas, elles disent qu'on ne doit pas les appeler comme ça, mais dans ce livre, le titre, c'est elle qui se dénomine comme ça, c'est la fille qui parle, alors c'est moi la responsabilité des parents.
Et puis s'interroger sur notre culpabilité, notre responsabilité, c'est déjà un immense pas en avant de la part des parents. L'Espagne est en force aujourd'hui dans le studio de Barbatruc. Ma troisième invitée est pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour.
Bienvenue, ravie de vous accueillir à nouveau dans Barbatruc. Vous dirigez la maison de Solène à Paris, structure des hôpitaux de Paris qui prend en charge des adolescents et adolescentes. Vous avez publié de nombreux livres, je cite les deux plus récents, « Quand ça va, quand ça va pas, leur famille expliquée aux enfants ». Et aux parents, chez Glénat, à lire à partir de 7 ans, mais aussi 50 questions sur les bébés, les enfants et les adolescents, recueil de vos chroniques sur RFI, dont j'aime beaucoup le sous-titre, Marie-Rose Moreau, « Comment devenir des parents ordinaires, ici et dans le monde ?» Édition La Pensée Sauvage, très belle ambition, non ? Devenir un parent ordinaire, et ça n'est pas si simple, vous le dites en introduction.
Et oui, on se met une telle pression lorsqu'on est parent, lorsqu'on devient parent, et la société tout entière, on a toujours l'idée qu'il faut être des parents idéaux. Alors on sait que bien sûr on le sera pas. Il y a un modèle comme ça d'idéal de parents. Alors l'idée aussi au fond, c'est d'être des parents heureux, tranquilles, et pas effectivement cette immense tâche impossible à accomplir, même si on y met toute notre énergie.
Vous empruntez ce terme d'ailleurs à Adèle Van Redt qui a publié sur ce sujet la vie ordinaire.
Exactement.
On devrait y penser plus souvent en tant que parents.
Et oui, on devrait penser. Pourtant, c'est ce qu'on vit tous les jours, cette vie ordinaire qui est si belle. Elle est sublime, en fait, la vie ordinaire. Mais on est toujours en train de comparer. C'est pareil pour les familles ou pour le rang des enfants. Moi, je suis une grande sœur aussi. Ah. Et je trouve que cette idée de vouloir, par exemple, que dans la famille, les frères et sœurs soient tous au même niveau. Mais c'est impossible parce qu'ils viennent à des moments différents et puis ils ont des personnalités différentes. Donc, on fait avec, en fait, plutôt de construire avec. Et effectivement, pour que chacun puisse avoir sa place.
Vous mettez déjà une première pierre sur cette question de l'injustice ou de l'inégalité évoquée par les enfants. C'est impossible de tous les traiter pareil, quel que soit leur nombre.
C'est impossible, je pense, vraiment. Mmh. Ou alors, ça ne serait pas authentique, parce que, bon, on le voit bien, lorsque les enfants, ils arrivent dans des moments différents de notre vie.
Et ça, on peut l'expliquer aux enfants.
Bien sûr, on peut leur expliquer. Moi, je conseille de leur raconter, justement, pour que chacun se trouve... finalement, ce qu'il y a d'extraordinaire dans chacun de leurs histoires, dans chacun des moments où ils vont arriver, ils vont nous faire parents. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les enfants qui nous font parents. Hein. Et donc, ça se fait tous ensemble. Et on n'est pas, la famille n'est pas au complet dès le début, donc c'est une construction.
Émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page et Mao de Butler. Réalisation Christophe Imbert. Alexandre Chenet est à la technique. C'est Barbatruc jusqu'à 16h.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital. Que le vide de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours.
Il s'appelle Jacques et il chante « La vie de tous les jours », programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. La place des enfants dans la fratrie. Nous parlons cette semaine des aînés, des cadets, cadettes et des petits derniers, petites dernières, avec la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau, avec Martina Aranda, autrice et illustratrice jeunesse à qui l'on doit « Le jour où je suis devenue grande sœur ». Et avec Jean-Philippe Arouvignot, créateur de La famille aux petits oignons, série de romans jeunesse qui raconte l'histoire d'une fratrie de 6 garçons, les gens quelque chose. On va écouter un extrait de l'un de vos romans, Jean-Philippe Arouvignot, Le camembert volant, lu par Laurent Stocker de la Comédie française. Ce passage raconte la naissance du petit dernier, Jean F.
Quand il est né, tout le monde attendait une fille, histoire de changer un peu. Et papa, qui est très fort en bricolage, avait tapissé sa chambre d'un joli papier rose qui cloquait tellement qu'on aurait pu croire que quelqu'un avait caché derrière des noyaux de cerise. Au début, on a tous été déçus que Jean F. ne soit pas une fille. Comme il a toujours faim, il s'arrête de respirer, devient tout rouge et se met à crier si fort que les gens dans la rue croient que c'est une sirène de la défense passive qui s'est déclenchée par erreur. Moi, j'aurais voulu être fils unique, comme mon meilleur copain, François Archampault. Il habite dans une maison si grande qu'il est obligé de prendre son vélo pour aller jusqu'à la salle de bain. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Comme son père est agent secret, François Archampault n'invite jamais personne chez lui à jouer le jeudi. Jean A dit que c'est un menteur, mais moi je le crois.
Est-ce que ce sont des cousins éloignés du petit Nicolas? C'est Jean A, Jean B, Jean C, Jean D, Jean E et Jean F.
Oui, sans doute. Quand j'ai découvert la littérature jeunesse, j'avais deux grandes séries qui vraiment m'ont passionné et ont fait que je suis devenu électeur et écrivain. C'était Le Club des Cinq, donc la variante aventure, le club, le groupe, et puis les histoires du petit Nicolas, où j'ai découvert qu'en fait, on pouvait raconter simplement des histoires de la vie quotidienne. Il suffisait de les écrire avec légèreté, avec humour, et on pouvait faire des livres formidables avec ça. Alors oui, mais les gens, quelque chose, sont des héritiers du petit Nicolas.
Voilà, ça se passe dans les années 1960, autour de cette époque-là. Vos livres ne sont pas un plaidoyer pour les familles nombreuses ou pour l'éducation tradie, disons, mais on est clairement dans cet univers-là. Famille nombreuse, bourgeoise, maman est en cuisine, papa lit son journal, les garçons sont tous habillés pareil, ils sont tous en Bermuda. On peut y voir une forme d'exotisme, un peu daté. Mais surtout, le plaisir de lecture dans La famille aux petits oignons, ce sont les bêtises. Les enfants n'ont de cesse de bousculer leurs parents avec une imagination folle. Est-ce que tout est vrai? Est-ce que c'est votre enfance?
C'est une enfance que je dirais romancée. Je ne voulais pas en faire une autobiographie véritablement, mais toutes les anecdotes sont vraies. Le climat général est vrai. Le fait que tous ces garçons s'appellent Jean quelque chose, c'est complètement vrai. Nous sommes une famille de 6 garçons qui avons tous ce prénom en commun parce que mon père s'appelait Jean-Louis, que ma mère s'appelait Janine. Donc je crois que par une forme de paresse, ils ont décidé qu'on serait tous des gens quelque chose. Mais vous imaginez la complication quand il faut appeler quelqu'un pour mettre la table. Jean, passe Jean, voilà, viens, mets la table s'il te plaît.
Le petit frère oublié sur le quai de la gare alors que le train a déjà démarré et que le papa attrape par le pantalon,
par le fond de la culotte.
Ça, c'est vrai.
Oui,
oui. Oui, sous les applaudissements de tout le wagon.
Voilà, sous les applaudissements du wagon, à l'époque où les portes ne fermaient pas automatiquement, sinon il serait encore sur le quai de la gare, le pauvre.
Alors que retenez-vous sur notre sujet du jour, Jean-Philippe Arouvignot? Je pense au petit dernier dont on vient d'entendre le récit de la naissance. Est-ce que c'est la dernière roue du carrosse, ce petit dernier?
Sans doute. Moi, j'imaginais, moi je suis le second, donc j'ai un peu du mal à voir comment ça se passe du côté des petits. Mais j'ai eu l'impression que mes frères les plus jeunes se sont retrouvés un peu, ont vécu leur vie en fait comme des petits moutons qui dans le troupeau courent toujours derrière en disant attendez-moi. Puis quand ils ont été en âge de pouvoir enfin jouer avec les grands, d'être acceptés au monopoly des grands, de pouvoir construire des maquettes avec les plus grands, etc.
Les plus grands, ils étaient trop grands
et ils étaient partis. Donc je pense qu'ils portent, eux, une nostalgie de cette enfance qui est plus puissante que celle que nous, les aînés, on pouvait porter.
La nostalgie est plus forte pour la période qu'ils n'ont pas vécue, finalement.
C'est ça. Pour une espèce d'enfance fantasmée où on aurait été 6 au même niveau, à la même hauteur, et on aurait pu vraiment partager complètement nos jeux et nos activités.
L'importance de la fratrie, Marie-Rose Moreau, peut-être n'en parle-t-on pas assez, parce qu'on pense souvent à cette relation verticale entre l'enfant et ses parents, mais la relation horizontale avec les frères et sœurs, ça construit tout autant.
Ah, ça, non, mais c'est pas tout autant, ça enfin, c'est évidemment plus c'est des choses différenciées, mais c'est tellement important ce qu'on a eu et ce qu'on n'a pas eu avec ses frères et sœurs, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on fantasme, puis on compare aux camarades, et puis effectivement les rangs dans la fratrie, c'est très important, ce que dit le premier, ce que dit l'aîné, ce que dit le second, ce que vit le premier, ce que vit le second et le troisième. Donc c'est finalement les frères et sœurs, c'est le premier apprentissage du lien social. Parce que les parents, voilà, il y a quelque chose comme ça qui s'impose dans la protection, dans l'existence. Mais les frères et sœurs, on apprend à être avec d'autres qui ont d'autres envies, d'autres manières d'être. Ils appartiennent à un autre genre, etc. Donc il y a plein de diversité. Il y en a qui sont sensibles comme les fleurs, comme disait un petit garçon, et puis d'autres qui sont beaucoup plus endurcis. Pareil pour les filles. Donc c'est vraiment un laboratoire absolument incroyable. Et lorsqu'on est tout seul, parce qu'on n'a pas de frères et sœurs, on cherche aussi là aussi réel ou fantasmé, mais on cherche des frères et sœurs.
Il y a ce que j'appellerais l'effet Dalton, simplement le fait d'être un groupe, à la fois par rapport aux autres, par rapport aux copains, on se supporte, on se défend, et puis par rapport aux parents. On n'est pas seul face aux parents, on a la possibilité d'être soutenu par
ses
frères, par ses
sœurs. C'est la construction d'une identité collective.
Voilà, qui va protester quand une punition est injuste, qui va réclamer.
Oui, c'est ça, la justice, c'est la génération. On fait partie d'une génération commune, et ça c'est très important pour la construction du lien.
Et c'est donc avec une naissance, on le disait tout à l'heure, qu'on devient grand frère ou qu'on devient grande sœur. Écoutons des enfants au micro de Juliette Proutot. Nous sommes en Bretagne cette semaine. Notre reporter a tendu son micro à des enfants sur l'île de Bas, dans le Finistère.
Barbatruc, France Inter, le samedi à 15h.
Est-ce que tu te rappelles quand ton frère et ta sœur ils sont arrivés?
C'était l'enfer. Des cris partout, je pouvais plus dormir, ça m'énervait. Quand ils sont vraiment tout petits, ils pleurent et ça agace un peu parfois.
Je me rappelle que papa nous avait emmené dans une boutique pour choisir le doudou Zay. Ensuite, quand elle était arrivée dans une serviette bleue. Et puis, quand Nouma est arrivée, j'ai juste dit, c'est quoi ce machin? La deuxième, je voulais que ce soit un garçon, donc j'étais trop déçue. Parce que j'ai que des filles. Dans notre famille, il n'y avait que des filles.
Moi, je prends ma cousine comme exemple. Elle va avoir un tireur. Oui, le bébé. Elle me demande, comment ça va être quand je répondrai, ce sera cool, tu pourras jouer avec lui quand tu veux, tu pourras t'occuper de lui. Ouais. Et tout, tu pourras jouer avec lui, tu pourras l'aider à grandir, il pourra t'aider à grandir aussi sur certaines choses.
Alors, j'en souviens plus trop. Mais c'était pas le meilleur moment de ma vie. Mais justement, le meilleur moment que... c'était quand la première fois que je l'ai vu, j'ai un peu... Mais dès qu'elle a grandi, je me suis habituée et j'ai compris de toute façon, elle était née. Et que c'était trop tard.
Voilà, c'est magique ce qu'on vient d'entendre. Au début, j'étais un peu « voilà », dit cet enfant. Et puis, je me suis habituée. Elle n'ose pas dire ce qu'elle a ressenti à la naissance de son petit frère ou de sa petite sœur. Martina Aranda, cela fait écho à votre livre « Le jour où je suis devenue grande sœur » qui commence ainsi. « Moi, je m'appelle Léonore, j'ai 5 ans et demi et une dent qui bouge. Avant, je n'étais pas grande sœur, mais un jour, ça m'est arrivé. Et tout le monde dit que j'ai de la chance. » Ça n'est pas évident, cette chance.
En fait, je pense que les frères et les sœurs rajoutent quelque chose à la personne qu'on ne développe pas si on n'a pas des frères et des sœurs.
Ça marque à jamais.
Ça marque.
Vous adorez observer les enfants, Martina Aranda, leurs attitudes, leurs expressions. On le ressent très fortement dans vos albums. Le lien entre les deux personnages, entre Léonore et Max, il repose sur des détails très justes et très doux. Et notamment cette phrase, Max tombe... Il ne dit rien, il attend que maman soit là pour pleurer. Et là, c'est la grande sœur qui parle, évidemment.
Oui, en fait, la grande sœur, il a un regard sur son frère. On peut faire un parallélisme avec la maternité, parce qu'elle a aussi des attentes sur l'arrivée de ses frères, mais elle a aussi des doutes et des peurs. Et alors, même si elle ne doit pas avoir les rôles directement des grandes sœurs, et dans le sens qu'elle ne doit pas être responsable d'un bébé, elles se sont déjà très liées à cette personne qui va arriver. Et voilà, je mets un peu un parallélisme avec justement tous les sentiments qui, avec la maternité, nous arrivent aussi. L'attente, les peurs, les espoirs.
Les déceptions.
Les doutes, les déceptions.
Marie-Rose Moreau, vous écrivez cette phrase dans votre livre. Tu n'es pas obligée de bien t'entendre avec ton frère ou ta sœur, mais tu es obligée de les reconnaître comme frères et sœurs, même s'ils sont très différents de toi. Ça n'est pas rien de dire à un enfant, t'es pas obligée d'aimer ton frère ou ta sœur.
Je disais tout à l'heure que c'est un apprentissage de la diversité et du lien social. Et donc, on choisit pas ses frères et sœurs. Hein. Ils arrivent et c'est une merveilleuse chose globalement. C'est très clair et pour une immense majorité d'enfants. Mais ils peuvent avoir des personnalités différentes. Ils peuvent avoir aussi des intérêts différents. Ils ont des âges différents. Et donc, ils ne sont pas dans la même demande vis-à-vis de leurs parents.
Mais alors, vous dites aux parents qui nous écoutent qu'on peut leur dire aux enfants, ce n'est pas obligé de s'aimer fort, de bien s'entendre?
Bah oui, parce que moi, je pense que l'éducation et l'éducation sentimentale, c'est une éducation aussi de l'authenticité. Et donc, nier, par exemple, si moi je ressens cette petite sœur, là, 5 ans et demi, puis j'apprends que je vais avoir une petite sœur, et que je vraiment, j'ai pas envie, et puis je voudrais bien que ma mère la laisse à la maternité et rentre sans elle, et puis après, je vais encore avoir du mal pendant quelques temps. Et je peux pas dire ces choses-là, sous prétexte que c'est ma sœur, et donc c'est sacré, il faut que je l'aime d'un amour absolu. Eh bien, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a rendre ma vie difficile avec cette sœur ou ce frère, alors qu'en réalité, c'est une chance, mais j'existe quand même, et je peux avoir... En plus, je me développe, et je mûris mes sentiments, je transforme mes sentiments. Donc, il faut reconnaître qu'on n'est pas toujours totalement content que quelqu'un vienne comme ça rompre la relation, ou alors que cette manière à elle ou à lui de faire, ben... Elle est, c'est pas la mienne, quoi. Et du coup, ça m'agace. Hein. Donc, c'est ça. Oui, je crois qu'il faut le reconnaître. Ça facilite la tâche des enfants, puis ça leur apprend la diversité des êtres.
Je vois Jean-Philippe Arovigno qui opine du chef.
Oui, je crois que dans la vie amoureuse, comme dans la vie familiale, le verbe aimer ne supporte pas l'impératif. Et que clairement, je crois qu'on découvre quand on attend un petit frère ou une petite sœur, on a le sentiment qu'on est progressivement fractionné. Que l'affection que nos parents éprouvaient pour nous va être découpée en petits morceaux, plus il y a d'enfants qui arrivent. Mais en même temps, on découvre aussi progressivement que ce nombre vous multiplie. Alors on est fois un peu divisé et en même temps multiplié par la présence des autres. Et c'est ça, je trouve, qui est beau et qui apporte, je crois, un sens fort du collectif. On découvre qu'on existe dans le collectif et que ce collectif vous renforce et vous accompagne tout au long de votre vie.
Ah oui, moi je pense que dans la vie ordinaire, les parents, ils doivent, justement, pour que ce soit magnifique, cette relation première là, avec ses frères et sœurs, on doit aider finalement les enfants, on doit les porter pour qu'ils développent les différentes étapes de leurs sentiments, et puis qu'ils puissent parler, et puis s'ils sont en colère, mais qu'ils ne fassent pas de mal à l'enfant. Ouais. Mais que,
la limite, c'est la violence, mais la colère est autorisée.
Bien sûr, et puis l'exprimer.
Ouais. Alors il y a des gens qui pensent que notre date de naissance a une influence sur notre personnalité, notre caractère. Pour ma part, je n'ai pas d'opinion sur l'astrologie. En revanche, je pense que notre place dans la fratrie a beaucoup de poids sur la personne que nous sommes. Et ce parallèle avec l'astrologie, c'est Ben Mazoué qui m'a fait le réaliser. Je suis allée voir ce chanteur sur scène récemment. Je vous recommande très vivement de le faire au passage. Et au cours du concert, il propose un horoscope des aînés et des petits derniers. Très belle idée, hein. Il remplace donc les signes astrologiques par la place dans la fratrie. Il n'y a plus de Sagittaire ou de Lion, mais il y a l'aîné ou le dernier. Alors ça m'a agacée, évidemment, parce que je suis du milieu, moi, dans ma fratrie. Et celui ou celle du milieu, il est encore oublié, là, dans l'horoscope. Mais bon, c'est toujours pareil, on l'oublie toujours, celui du milieu, que voulez-vous. De mémoire, ça donnait ceci pour l'horoscope des aînés. Amour, arrêtez d'essayer d'être parfait. Travail, arrêtez d'essayer d'être parfait. Famille, arrêtez d'essayer d'être parfait. Et pour l'horoscope des derniers, je me souviens surtout du passage sur l'échec. Perdre ne vous arrête pas. Et heureusement, parce que c'est l'essence de votre condition, petit dernier, vous perdrez à la course, au vélo, à la bagarre, aux énigmes. Mais vous verrez à l'âge adulte tout ce qu'on gagne à avoir perdu souvent. Voilà, l'horoscope devrait être détrôné par l'horoscope des aînés et des petits derniers. Ben Mazoué est actuellement en concert, en tournée partout en France, et l'occasion est toute trouvée pour l'écouter chanter.
Agrandis-moi, force la ferveur, réponds-moi, inspire mes peurs, porte ma croix juste quelques heures et donne-moi la foi, inspire mes peurs. Termine de signer entre les hommes l'idylle qui va me décider à rester anti-cynique. Résiste à mes idées, concilie la branche sur laquelle on est assis sacré. Donne-moi des signes, attends-moi le monde. J'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive. Je cherche en qui croire. J'arrive. Excuse mes fautes, dis que c'était pas si grave, que c'est que des équimaux.
des bobos, dis-moi que tout est possible. Si à ceux qui bravent, l'important c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. Attends-moi le monde, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille un espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Me chercher en qui croire. J'arrive, j'arrive. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive.
J'arrive, c'était Ben Mazoué sur France Inter. Nous parlons fratrie cette semaine dans Barbatruc. Quelle place pour l'aîné, pour ceux et celles du milieu, pour les petits derniers et les petites dernières. Martina Aranda, autrice et illustratrice jeunesse. Jean-Philippe Arouvigno, auteur et éditeur. Et Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, sont mes trois invités. Les gens quelque chose, Jean-Philippe Arouvigno, sont donc six frères, nous le disions, des héros de vos romans publiés chez Gallimard, une famille aux petits oignons. Est-ce que vous diriez qu'une famille nombreuse, ou en tout cas une famille avec plusieurs enfants, ça oblige, voire invite les enfants à se créer une case, à vouloir rentrer dans un rôle à tout prix et à ne jamais en sortir ?
Dans ma famille, on était classés les grands, les petits, ouais, et les moyens. Donc il y avait déjà, comme ça, une installation de notre situation familiale. Alors il y avait un partage de chambre, il y a un partage de lit superposé avec les querelles sur qui est en haut, qui est en bas. Forcément, c'est le plus grand de la fraction qui occupe le lit du haut. Alors oui, bien évidemment, il y a une forme de positionnement qui s'installe. Il y a ensuite ce que renvoient les parents. L'aîné est à la fois doté de prérogatives en tant qu'aîné, mais aussi il a des devoirs. Donc il y a systématiquement, comme ça, une installation dans la famille d'un réseau de missions, de devoirs qui tient vraiment à la place qu'on y occupe.
C'est difficile de les balayer, ces cases ?
Je crois que c'est assez compliqué. Moi, j'avais la chance d'être le deuxième. Donc, à la fois, de profiter des avantages des grands, mais de ne pas être en ligne de front.
Mais on manque d'identité, quand même, au milieu, non ?
Sans doute. Oui, moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup fui dans les livres, dans l'écriture, dans la lecture. C'était une façon pour moi de me replier et de pouvoir échapper à ce monde surpeuplé dans lequel on vivait tout le temps. Mais j'ai pas eu l'impression que ça me gênait. Ça me donnait plutôt une position un poil détachée.
Ouais.
Parce que j'étais un peu l'interface avec les moyens. J'étais pas vraiment le grand, mais je jouissais quand même d'un certain nombre d'avantages. Donc, c'était, je trouve, une très très bonne position intermédiaire. Un peu de faillot, un peu de paresseux, un peu de, voilà, de contemplatif qui est là. Ouais.
Alors, l'enfant aîné, c'est souvent l'intermédiaire entre le parent et les autres enfants. C'est souvent aussi celui dont on exige le plus, celui qu'on stimule le plus en tant que parent. Est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans ou beaucoup d'idées reçues, Marie-Rose Moreau ?
Il y a quand même beaucoup d'idées reçues, d'autant qu'il y a tellement de façons différentes de faire famille dans le monde, par exemple, qu'on a presque c'est expérimental. C'est-à-dire, on pourrait regarder comment ça se passe en fonction des endroits, des types de familles, et on se rend compte que vraiment, il y a plein de manières de faire. Par exemple, prenons l'histoire du premier-né. On peut ou pas lui donner une fonction d'aîné, en fait. C'est pas parce qu'on est premier qu'on va avoir des responsabilités, justement, intermédiaires. Ça dépend. Il y a, par exemple, des endroits en Afrique ou dans des familles matrilinéaires où on a le premier enfant
d'une femme, donc. C'est pas forcément avec son mari, en fait. On fait un premier enfant, au fond, pour dire qu'on est une mère. Donc, on le fait avec son ami d'enfance. Il y a l'idée de quelque chose. Et celui-là, il n'a pas une fonction d'aîné de la fratrie. Pourtant, c'est le premier.
Il n'a pas une fonction facile non plus, j'imagine.
Chaque enfant, ça, pour le coup, on dit les parents sont protecteurs et tout ça, mais en fait, les enfants aussi, ils assurent des tas de fonctions. Il y a des enfants mémoire, il y a des enfants qui vont, par exemple, redonner la joie de vivre à leurs parents. Enfin, il y a des enfants qui vont leur prouver qu'on peut dépasser des deuils ou des traumas incroyables. Donc, les enfants, c'est aussi leur complexité, c'est qu'ils assurent des tas de fonctions. Donc il y a des grandes variations culturelles, sociales et puis individuelles. Moi, si vous me dites que je suis pas la sœur aînée, je serais pas contente. Mais
alors justement, Marie-Rose Moreau, vous êtes née dans une famille espagnole, vous avez grandi dans les Ardennes, vous êtes l'aînée de cinq enfants, c'est ça?
Non, je suis née en Castille et puis j'ai grandi dans les Ardennes. Oui.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre la France et l'Espagne sur la façon d'aborder cette question dans les fratries?
Dans mon enfance, il y avait une différence, oui. Parce que l'Espagne, elle a aussi changé ses modèles d'organisation des familles. Mais dans mon enfance, moi, vivant dans une famille espagnole, et à l'extérieur, c'était dans un village rural des familles françaises, oui, par exemple, chez nous, c'était très hiérarchisé. Et l'aîné, moi, j'avais vraiment une fonction maternelle et maternante. Ah oui, petite maman de tous les autres.
C'est compliqué à porter.
Non, parce que c'était tellement valorisant et ça me donnait des relations avec mes frères et sœurs, d'une telle palette de possibilités avec mes frères et sœurs que, non, je l'ai vécu vraiment comme une chance. Mais c'était très différent des enfants de la voisine qui n'avaient... Enfin, on ne pouvait pas faire à l'aîné ce qu'on me faisait faire à moi. Aller laver le linge ou aller... C'était pas possible. Et pour moi, c'était un honneur.
Martina Aranda, je vous donne évidemment la parole. Vous êtes, vous aussi, espagnole. Vous vivez en Belgique. Oui. Différences culturelles sur ce sujet-là?
Dans mon cas, non. En fait, je pense que je fais la même chose, je fais les mêmes erreurs avec ma fille aînée. C'est que moi, quand j'ai aussi une sœur plus jeune que moi, alors je suis grande sœur aussi, moi. Et mes parents, ils m'exigeaient beaucoup. Je devais être l'exemple de ma sœur. Et alors, ils ont mis beaucoup de responsabilités sur moi dans le sens que je pouvais pas faire des erreurs. Je devais toujours être un exemple pour la plus petite. Alors, ça met beaucoup de pression sur l'enfant. Et quelque part, je pense que parfois, je fais aussi les mêmes erreurs. J'ai une fille, un garçon à la maison et que je lui demande à elle de faire des efforts, qu'elle est la plus grande, qu'elle doit être un exemple. Et du coup, on oublie parfois que tous les deux sont des enfants. Et le fait que grande sœur, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément grande. Elle est aussi un enfant de 9 ans qui a des besoins comme son petit frère.
C'est là où on voit quand même comment il y a des grandes différences, en fait. C'est-à-dire que la même fonction, vous dites c'était une erreur. Moi, je dis c'était une chance. Et c'est exactement la même chose dont on parle.
D'après vous, c'est quoi la meilleure place dans une fratrie?
Être le grand. Grand frère, moi je trouve. Bah parce qu'on est fort.
Ouais, il y a des avantages et des désavantages. Le désavantage, c'est. Eh, va faire ci, va faire ça. Tiens, il y a le tri à sortir.
Ça, c'est les inconvénients.
Et les avantages, c'est que je peux faire ce que je peux sortir quand je veux.
Moi, j'irais pas trop la dernière, parce que la dernière, il y a beaucoup moins de choses et on peut pas faire tout ce qu'on fait. La première, on a plus de responsabilités. Et la deuxième, on est toujours partagé entre deux sœurs. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure place où ça dépend des goûts. Et c'est compliqué. En fait, maman, genre, elle va d'abord voir Zahé. Et du coup, Zahé, elle dit, je peux te lire une histoire. Et maman est fatiguée. Souvent, elle lui lit une histoire. Et là, elle vient vers moi, je dis, je peux te lire une histoire. Et c'est non. Papa aussi, c'est déjà arrivé. Mais papa, en fait, s'il dit non à une, il dit non à toutes.
Enfin, moi, finalement, j'aime plutôt ma place quand je suis petite, parce qu'on me demande presque jamais rien.
Moi, j'aurais aimé être l'aînée, parce que je pourrais aller dehors quand j'ai envie, me promener tout seul.
Est-ce que t'aimerais bien qu'il y en ait d'autres?
Oui.
Bah, juste trois.
Trois? Trois, c'est un bon chiffre.
Oui. Bah, comme ça, je peux bien m'occuper, oui.
J'ai hâte qu'elle a au moins 3 ans pour qu'on joue au chat.
Ils en pensent quoi, d'après vous, les enfants qui n'ont pas de frères ou sœurs, qui sont tout seuls?
Ils sont tristes.
Pourquoi? Ils doivent s'ennuyer.
On a personne à embêter.
J'aimerais bien qu'il y ait un plus grand frère comme ça, j'aurais le droit, tu vois, si je le tape puis qu'il me tape comme ça, c'est lui qui se fait gronder, pas moi.
Toi, tu trouves que c'est quoi la meilleure place?
Le plus petit. J'aime bien quand t'es bébé, tu peux lancer tes couches sur les parents.
Et c'est quoi l'avantage d'être le grand alors? Ou l'inconvénient?
Inconvénient d'être grand et d'avoir une petite sœur.
Voilà, ça soufflait un peu ce jour-là dans le Finistère. Propos recueillis sur l'île de Bas par notre reporter Juliette Proutot. On a entendu beaucoup de choses intéressantes, Jean-Philippe Arouvignaud, notamment cette idée qu'il n'y a pas de meilleure place. Hein. Ça dépend des goûts.
Non, moi j'ai l'impression que le grand, quand même, ce qui est très compliqué pour lui, c'est qu'il a été le seul à être fils unique dans la famille. Et que quand arrive un autre, je me demande s'il n'a pas le sentiment toute sa vie d'avoir démérité, puisque les parents en ont fait un autre. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui accompagne les grands que je connais de cette nature-là, de cet ordre-là.
Vous reconnaissez ça dans les adultes aînés que vous connaissez?
Oui, alors que les autres, ils ont connu déjà une famille où il y avait d'autres enfants. Donc voilà, on était déjà, ils sont déjà nés dans un groupe. Et je me demande s'il n'y a pas un petit traumatisme là, après lequel les aînés courent.
L'idée est belle, mais elle est franchement désespérante, Jean-Philippe Arouvignaud. Marie-Rose Moreau.
Moi, je crois que vraiment, ça dépend du récit qu'on se fait. Parce que on pourrait faire le récit inverse, de se dire, j'ai vécu quelque chose de plus que les autres n'ont pas vécu, par exemple.
Ou alors donc, c'était tellement bien avec toi qu'on en a fait
donc
un
autre. Donc le récit, c'est pour ça que c'est si important, pour les parents aussi, bien sûr pour les enfants, mais de pouvoir, même avec les frères et sœurs, de se faire un récit de ça, pendant l'enfance en fait. Parce qu'après... après, on le réinterprète, évidemment, mais le récit qu'on se fait. Et effectivement, ce qu'on va dire aux enfants quand il y a un frère, une sœur qui arrive, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et puis, comment on va lui permettre d'exprimer des choses multiples, en fait? Parce que les enfants, ils sont philosophes, ils ont bien raison de dire que le goût, ça dépend. Il y en a pour... Vraiment, ils ont dit plein de choses très complexes, en fait.
Vous pensez, vous aussi, Marie-Rose Moreau, que la place des enfants dans la fratrie détermine ensuite leur caractère, leur personnalité? Même à l'âge adulte?
Non, je pense que c'est plus interactif que ça. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, ça reste. On va garder de cette expérience, premier, deuxième, troisième, une expérience. Mais en fonction de notre personnalité, on va aussi modifier ce qu'on a pris à cet âge-là. En faire quelque chose de différent. C'est ça que je pense vraiment que ce qui compte, c'est comment on va se raconter cette histoire.
Martina Aranda.
Moi, justement, j'étais d'accord avec madame qui disait... Les aînés, enfin, je les raconte à ma fille quand il a parfois des petites crises de jalousie parce qu'il a 5 ans différent avec son frère, que son frère demande beaucoup d'attention. Elle avait son aussi de cette attention. Et je lui dis, tu as profité des 5 ans avec l'exclusivité de tes parents qui est pour toi. Alors, bien sûr, elle se souvient pas de toutes ces années, mais il faut mettre en valeur justement qu'ils étaient dans cette position pour les aider un peu à s'adapter à cette nouvelle situation où l'affection, l'amour, les tons doivent être partagés. Et ce n'est pas évident pour les parents, mais pour les enfants non plus.
Allez, un peu de musique avant de poursuivre nos échanges. Voici Al Jay sur France Inter. Barbatrouille,
le samedi à 15h.
Yeah.
my life.
You and me, c'était Al Jay sur France Inter. Tenez, j'ai un conseil pour les parents, conseil tout bête et de saison. Si vous incitiez vos enfants à envoyer des cartes de vœux, pour fabriquer une carte de vœux personnalisée, je vous recommande d'utiliser la photo de l'école. Vous savez, ce portrait individuel de l'élève que l'on reçoit en plus de la photo de classe, quand le frère ou la sœur est dans la même école, ils posent ensemble, souvent d'ailleurs, sur un fond assez discutable, en forme de couleur ou de motif, mais passons. Vous découpez un de ces portraits et vous le collez sur une carte de vœux. Ensuite, on laisse galoper sa créativité et ses feutres. C'est devenu tellement rare, le vrai courrier dans les boîtes aux lettres, que ça fait toujours un effet immense au destinataire. Et puis pour ceux et celles qui préfèrent utiliser des cartes de vœux toutes faites, je vous conseille le nouveau numéro d'Astrapi, celui de janvier. Vous y trouverez des cartes à découper, cartes de vœux truffées d'illusions d'optique, avec des images à fixer longtemps pour voir apparaître un dessin, ou alors avec un message qui est illisible mais qu'il faut approcher de ses yeux pour déchiffrer. Merveilleuse année 2022, l'effet waouh est garanti. Plein les yeux pour 2022, des cartes de vœux à retrouver dans le magazine Astrapi.
Dorothée Barba,
le samedi sur France Inter.
Frères et sœurs, chacun cherche sa place. Nous parlons fratrie avec les invités de Barbatruc cette semaine. Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, Martina Aranda et Jean-Philippe Arouvigno qui écrivent des livres pour les enfants. Cette question de la pression qu'on exerce sur les aînés et des efforts qu'on leur demande sans arrêt, c'est difficile à encaisser pour les plus grands. On demande toujours, Marie-Rose Moreau, en tout cas c'est fréquent chez les parents, à l'aîné de faire des efforts parce que le plus petit, bah, il est plus petit, c'est moins facile, c'est de lui expliquer les choses. Quel conseil vous donnez aux parents pour gérer ce genre de situation parfois complexe?
Alors, si on peut se donner des conseils, parce que faut savoir qu'il faut s'adapter à chaque enfant et à chaque situation, c'est ça la grandeur, et c'est ça qui compte en réalité, parce que c'est pas seulement le rang dans la fratrie, parce qu'il peut y avoir des grands, je sais pas, qui sont très doux par exemple, et très rêveurs, et forcément les parents vont le percevoir et ne vont pas leur demander d'être de telle et telle manière, parce qu'ils perçoivent qu'il est comme ça, il a cette créativité-là, et donc à ce moment-là, on fait autrement. C'est ça la bonne idée, pour que chacun soit heureux dans cette affaire. Mais en tous les cas, pour répondre directement à cette idée, des conflits entre les frères et sœurs, ou des demandes différentes entre les frères et sœurs, il y en a toujours. Bien sûr, il faut essayer d'être juste, sinon ça crée de l'amertume. Mais lorsqu'il va y avoir des conflits entre les frères et sœurs, il y en a toujours. Ce qui compte, c'est pas de les interdire et d'intervenir comme s'ils ne savaient pas réguler entre les manières de faire, mais d'aider à formuler quoi. Qu'est-ce qu'on reproche au frère ou à la sœur? Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu lui reproches de jamais mettre la table parce qu'il est le plus petit. Alors c'est peut-être vrai, peut-être que je lui demande pas, ou peut-être que je lui ai pas appris, ou peut-être que toi-même tu lui as pas appris, parce que du coup ça va plus vite quand c'est toi qui le fais. Enfin, parce que c'est souvent pour des raisons multiples en fait qu'on se comporte comme ça.
Donc, achète la paix sociale. Hein,
voilà, et puis on achète aussi la vie de tous les jours. Il faut que ça aille, il faut qu'on fasse. Bon. Donc du coup il faut analyser un petit peu ensemble les choses.
Mettre des mots sur ce que ressent chaque enfant.
Et avoir confiance dans leur capacité justement à trouver leur manière d'être ensemble. Parce que c'est ça la grandeur, quoi.
Vous disiez tout à l'heure que l'enfant n'est pas obligé de bien s'entendre avec son frère ou sa sœur, Marie-Rose Moreau. Est-ce que vous diriez tout de même que c'est la responsabilité des parents de faire en sorte que la fratrie s'entende à peu près, ou en tout cas de nourrir ce lien fraternel?
Oui, c'est de la responsabilité des parents de construire un cadre pour que ça puisse se faire. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui disait toujours il ne faut pas jouer avec les enfants, mais il faut leur permettre de jouer ensemble. Alors, les frères et sœurs. C'est-à-dire, par exemple, si on ne les laisse pas être ensemble parce que, l'aîné, il va au violon, machin, il fait des tas de choses. Et puis après, il met la table, et puis, etc. Et qu'il ne peut pas jouer avec son frère ou sa sœur qui, lui, a moins de pression parce qu'il est plus petit. Et ben, au fond, là, on va créer quelque chose d'une différenciation artificielle. Donc, il faut pouvoir leur permettre de comprendre, en fait, ce qui se passe, et pour justement pouvoir utiliser d'autres parties d'eux-mêmes, quoi, et pas seulement cette rivalité, cette jalousie.
Jean-Philippe Arouvigno, vous diriez-vous aussi que c'est la responsabilité des parents que de nourrir ce lien entre les frères et sœurs?
Oui, je crois. J'ai l'impression qu'une des valeurs les plus puissantes à l'œuvre dans l'enfance et dans les conflits entre les fratries, c'est la notion de justice. Et cette notion de justice.
Elle est insoluble, cette notion. On n'y arrivera jamais, nous, les parents, à être justes.
Non, mais on peut tenter effectivement d'éclairer, d'entendre. Et cette notion de justice, on sait bien aussi qu'elle est biaisée par le regard de l'enfant lui-même, qui ne voit que certains éléments de la réalité, qui de ce fait-là va interpréter mal des choses. Donc il y a un travail, effectivement, de mise au jour de tout ça par le dialogue, par l'explication, par la parole. Qu'après. Il y ait des conflits entre les enfants, qu'il y ait des règlements de compte, qu'il y ait des engueulades, qu'il y ait des castagnes. Moi, j'ai connu ça toute mon enfance. C'était des castagnes qui étaient souvent symboliques. C'était un coup de chaussette sale. Il n'y a jamais eu de bagarre violente. Mais je crois qu'il faut laisser ça aussi s'exprimer parce que ça permet de réguler cette espèce de tension permanente qui naît dans un groupe. L'idée, peut-être, c'est d'essayer de travailler cette notion d'une harmonie, d'installer une harmonie à la fois dans la fratrie, mais une harmonie des parents eux-mêmes. Et cette harmonie, elle se fait forcément en passant par des hauts et des bas, en passant par des... Globalement, justice et bienveillance, c'est ça qu'il faut permettre d'installer dans une famille. Et déculpabiliser les parents, parce que ça se recrée chaque jour, ça se recrée chaque demi-heure, ça n'est jamais là. Donc quand on croit que ça y est, ça, le lendemain, c'est fichu.
Vous ne pensez pas que si en tant que parent, on lui donne trop libre cours à cette formulation de l'injustice ou de l'inégalité, on va la laisser s'épanouir encore plus et que ce sera chaque minute de la vie quotidienne ?
J'ai pas le sentiment, non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des règles et qu'il ne faut pas poser des lois à l'intérieur de la vie de famille. Et que dire non, c'est dire non. Et qu'on n'a pas toujours besoin d'expliquer pourquoi on dit non. Mais travailler cette notion de justice. Voilà pourquoi je demande ça. Voilà pourquoi ton frère peut faire ça. Voilà pourquoi ta sœur a l'autorisation de faire ça. Voilà pourquoi tu as l'impression que... Explique-moi, j'ai besoin de t'écouter, de savoir comment tu perçois ce qui se passe.
Martina Aranda, on peut aussi dire aux enfants que notre cœur est élastique, hein, qu'il y a la place pour tout le monde, que la place peut varier. Ça rejoint un peu une interrogation souvent des jeunes parents qui ont eu un enfant et qui se demandent comment ils vont pouvoir aimer autant le deuxième. Est-ce que ça vous parle, ça ?
En fait, oui. Je pense que les premiers enfants, c'est celui-là qui te fait un mère, un père, un maman. Et du coup, c'est tellement spécial qu'on se demande si les deuxièmes, ça va être la même chose. Quand j'étais avec ma fille pendant 5 ans, je n'avais pas besoin d'une autre. Elle était le centre de ma vie. Et quand la deuxième est arrivée, on a des doutes. On s'est dit, est-ce que j'aurai la place pour un deuxième vraiment ? Parfois, on a un deuxième enfant parce qu'on voudrait donner un frère, une sœur à les premières. Et ça ne doit pas être la raison pour laquelle on a un deuxième enfant. Le deuxième enfant doit arriver parce que, voilà, parce qu'on le souhaite.
Pas pour fabriquer un petit frère ou une
petite
sœur.
C'est ça. Voilà. Et oui, on est élastique. Il y a l'amour pour tous les deux. Et
tous les six, dans le cas des gens, quelque chose.
Pour les six, j'imagine aussi. Oui.
Marie-Rose Moreau.
Oui, je crois que c'est très, très important, cette idée que les enfants, voilà, et ça, il faut leur raconter qu'ils existent pour eux-mêmes. Mais en plus, ils ont la chance d'être frères et sœurs. Mais ça, c'est un doute que peuvent avoir les enfants. Est-ce que, dans les deux sens, c'est pour ça l'importance des récits, est-ce que finalement, tu n'aimes pas le premier parce que c'est le premier? Et puis que tu as vécu avec. Voilà. Ou est-ce que. Et moi, j'arrive. On ne m'a pas voulu. Hein, moi, les nombres d'enfants qui me disent mais moi, on ne m'a pas voulu. Pourquoi ? Mais parce que je suis le deuxième. Ça, c'est très étrange. Donc, c'est très étrange. Et j'ai dit mais est-ce que tu en as parlé avec tes parents ? Non, surtout pas. Non. Et donc, vraiment, cette idée de chacun a une place. Mais après, c'est différencié. Hein, mais chacun a une place. Puis il y a la question des frères et sœurs. Et moi, je crois que la question de la justice, justement, est très importante. C'est pour ça qu'il faut en parler. Non pas qu'on est tous pareils, on s'aime tous de la même façon, et ça, c'est faux. Par contre, que les parents ont un devoir de justice et de partage, ça, c'est important. Et si les enfants ne le vivent pas comme ça, ils ont leur raison. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut en parler.
Et je voudrais citer une phrase de votre livre pour enfants, Marie-Rose Moreau. Plus les parents sont capables de se poser des questions sur leurs qualités et leurs défauts en tant que parents, plus ils sont de bons parents. Voilà, ce qui compte, ce sont les questions et pas forcément les réponses. Ça rassure, non ? Ça va déjà beaucoup
mieux.
Mais
c'est vrai.
Nous approchons de la fin de cette émission. J'ai une dernière question, question rituelle à vous poser. Quelle est l'odeur de votre enfance? Alors, celle qui est déjà venue a déjà répondu, mais elle y repasse, hein, c'est le jeu. Marie-Rose Moreau, je me souviens très bien de votre réponse la dernière fois que vous êtes venue. C'était l'odeur de l'anis que votre maman mettait dans les pelonillas, des biscuits espagnols. Il faut trouver une autre odeur aujourd'hui. Quelle est l'odeur de votre enfance?
Ah oui, alors il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup l'odeur du safran aussi. Ah. C'est-à-dire cette odeur âcre qui vient, après l'anis vert, le safran, qui vient colorer et donner une odeur incroyable qui vous emmène dans des univers incroyables. Avec
la paella.
Avec le riz, oui, la paella, mais ça peut être n'importe quel. Le safran est pour moi un inducteur de rêve.
Martina Aranda, quelle est l'odeur de votre enfance?
Alors, je fais un clin d'œil à mon album. Les jours où je suis devenue grande sœur, on dit que Max, ils sont la lait de toilette. Alors, c'est ça l'odeur.
L'odeur de l'enfance, le lait de toilette.
Oui.
Même question, Jean-Philippe Arouvignot.
Moi, c'est l'odeur des bougères chaudes, ces choux au fromage que faisait ma mère rituellement quand le samedi, on rentrait de la piscine municipale, on est allé apprendre à nager, donc on grelottait. Et
tous
on
les
a passé...
six en même temps?
Non, pas, peut-être non, pas. Par groupe, par groupe. Et on grelottait, puis on avait l'estomac lesté parce qu'on avait bu la tasse de litres d'eau de Javel et on avait cette espèce d'explosion comme ça, d'odeur et de chaleur dans cette maison. C'était, voilà, tout d'un coup, on retrouvait le nid douillet de la maison après avoir été affronté les lignes de la piscine.
Le safran, le lait de toilette et les gougères au fromage. Des odeurs qui sont mises sous cloche et qui rejoignent la composition complexe du parfum de l'enfance dans Barbatruc. Les gens quelque chose sont à lire dès l'âge de 8 ans. Rigolade garantie. Et jolie réflexion au passage sur les liens fraternels. L'intégrale en deux tomes est disponible chez Gallimard. Une famille aux petits oignons de Jean-Philippe Arouvignot. Pour les plus jeunes, je recommande les livres Si doux et si beau de Martina Aranda à l'école des loisirs, collection Pastel. Le jour où je suis devenue grande sœur et le jour où je suis allée à la grande école. Et les parents liront avec intérêt le livre de Marie-Rose Moreau, édition La Pensée Sauvage. 50 questions sur les bébés, les enfants, les adolescents. Comment devenir des parents ordinaires ici et dans le monde? Marie-Rose Moreau, je le disais, a aussi écrit pour les enfants. Un ouvrage très bien fichu, très clair pour aider les enfants à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent dans leur famille. Ça s'appelle « Quand ça va, quand ça va pas, leur famille expliquée aux enfants ». Illustration de Laure Monloubou chez Glénat Jeunesse. Voilà, ça fait beaucoup de références, mais on a tout soigneusement consigné à la page de Barbatruc sur le site de France Inter. Grand merci à vous trois.
Merci.
Merci, merci, bonne journée et à bientôt bonne sur France journée. Inter.
Au revoir.
Dans un instant, ce sera le temps d'un bivouac et je peux vous dire que je serai à l'écoute. Daniel Fiévert reçoit Malia Metella, Théo Curin et Mathieu Vidvoud qui ont récemment traversé le lac Titicaca à la nage dans des conditions dantesques. Magnifique exploit qu'ils vont vous raconter en détail.